tout donné. Ça n'a pas de prix, son amour n'a pas de prix. Et tu l'as bien compris, j'ai choisi de te laisser partir. Nous deux, c'est mort.
Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Le président Donald Trump a évoqué, sans rentrer dans les détails, hier à Dallas, un décret en préparation pour encourager les policiers à faire preuve du plus grand professionnalisme suite au meurtre de l'Africain-américain George Floyd par un policier blanc à Minneapolis. Mais il a surtout défendu les policiers, soulignant la nécessité d'avoir une police plus forte et assurant qu'il n'y a pas beaucoup de brebis galeuses en son sein. Monsieur Trump a aussi appelé à travailler ensemble pour lutter contre l'intolérance et les préjugés où qu'ils soient. Mais a-t-il averti, on ne pourra pas faire des progrès et guérir les blessures si on qualifie à tort des dizaines de millions d'honnêtes Américains de racistes ou d'intolérants. Lors d'une visioconférence avec ses pairs de l'Union africaine, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a lui qualifié hier la mort de George Floyd de symbole du vieux monde qu'il faut changer et qui viole constamment ses valeurs. Solidarité, égalité, justice, dignité. Il a ajouté: notre conférence doit condamner sans réserve cet acte odieux. S'agissant de la pandémie de coronavirus et des économies africaines, M. Issoufou a encore appelé les pays occidentaux à aller plus loin que des annulations de dettes, réclamant un plan Marshall pour l'Afrique. L'OMS avertit que la vitesse à laquelle le nombre de cas confirmés a doublé moins de 20 jours montre l'accélération de la propagation du COVID-19 en Afrique. Le continent totalisait hier 5676 décès pour 215 106 cas. L'Amérique latine et les Caraïbes comptaient jeudi 73 602 décès, dont plus de la moitié au Brésil et 1 509 813 cas selon un décompte de l'AFP. Aux États-Unis, où le cap des 2 millions de cas a été dépassé, la crainte d'une deuxième vague fait trembler entrepreneurs et investisseurs. Mais nous ne pouvons pas fermer l'économie de nouveau, a prévenu le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. En République démocratique du Congo, une peine de 20 ans de prison a été requise hier par la justice contre l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, allié politique et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Monsieur Kamerhe, qui clame son innocence, est le principal des trois accusés d'un procès sans précédent pour détournement et blanchiment présumé de quelque 50 millions de dollars d'argent public. Le jugement sera rendu le 20 juin. D'autres nouvelles africaines dans un instant. C'est finalement en Floride qu'aura lieu la convention républicaine devant désigner officiellement le président Donald Trump, candidat de son parti pour la présidentielle de novembre. Cette convention était prévue du 24 au 27 août en Caroline du Nord, mais le gouverneur démocrate Roy Cooper avait jugé nécessaire d'envisager un rassemblement sur un format plus réduit en raison du coronavirus, ce qu'a rejeté M. Trump. À noter que ses partisans se rendant à ses prochains meetings doivent s'engager à ne pas poursuivre en justice son équipe de campagne en cas de contamination par le coronavirus. M. Trump a annoncé mercredi une reprise des meetings de campagne dans 4 États, mais l'annonce d'un meeting à Tulsa dans l'Oklahoma le 19 juin a immédiatement créé la polémique dans un pays bouleversé par la mort de George Floyd et en plein examen de conscience sur la question du racisme. Tulsa a été en effet le lieu d'un massacre raciste en 1921, quand une foule de Blancs avait tué des centaines d'Africains-Américains dans un quartier noir et prospère de la ville. En outre, la date choisie, Juneteenth, en anglais, correspond au jour de la liberté, célébrant l'abolition de l'esclavage au Texas le 19 juin 1865. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La suite de nos informations. Au Burundi, le gouvernement a demandé hier à la Cour constitutionnelle de constater la vacance du pouvoir et de définir la marche à suivre après le décès soudain du président Pierre Nkurunziza. Les détails avec Nanit Talani.
La Cour constitutionnelle doit définir les modalités pratiques de la transition. Selon la Constitution de 2018, en cas de vacance définitive de la présidence, l'intérim doit être assuré par le président de l'Assemblée nationale, qui est actuellement Pascal Nyabenda. M. Nyabenda aurait été le premier choix de M. Nkurunziza pour lui succéder. Mais quelques généraux ont eu gain de cause en imposant le général Évariste Ndayishimiye. Dans les faits, la décision sera prise par ces généraux issus de l'ancienne rébellion Hutu et qui partageaient le pouvoir avec M. Nkurunziza. Selon un cadre du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, ces généraux penchaient initialement accélérer l'investiture du président élu sans passer par la phase intérimaire, mais pourraient aussi opter pour le respect strict de la Constitution. Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 15 ans, est décédé lundi. Il devait achever son mandat le 20 août et passer le témoin au général Ndayishimiye, déclaré vainqueur de la présidentielle du 20 mai dernier.
Au Mali, le premier ministre Boubou Cissé a brièvement démissionné avant d'être reconduit hier soir par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce développement, alors que le pays est secoué par des manifestations demandant la démission du président. Kassim Traoré à Bamako.
C'est le 22 avril 2019 que Boubou Cissé est arrivé à la tête du gouvernement à la faveur d'un accord politique de gouvernance qui avait permis une relative stabilité politique et sociale. Ce jeudi 11 juin 2020, il a remis la lettre de démission de son gouvernement. Il a été aussitôt reconduit à ses fonctions et chargé de former un nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement devrait être une équipe restreinte, c'est conformément aux recommandations du dialogue national inclusif qui a proposé en décembre 2019 la formation d'un gouvernement de 25 membres. L'actuel Premier ministre est le sixième du gouvernement depuis l'accession de Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Mais actuellement, le président lui-même fait face à une vive tension. Pour le chercheur Baba Dakono, la reconduction de Boubou Cissé ne facilite pas le dialogue entre le président et le mouvement du 5 juin dernier.
Cette reconduction réduit fortement les chances de succès d'un dialogue que beaucoup d'acteurs espéraient entre le président de la République et les organisateurs de la manifestation du 5 juin. Parce qu'elle intervient dans un contexte où on a senti une ouverture au sein de ces regroupements-là, une disposition à dialoguer. Mais le fait d'avoir reconduit, si on réduit les succès des dialogues.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a encore haussé le ton contre la CPI en annonçant des sanctions économiques en cas de poursuite judiciaire contre des soldats américains en Afghanistan. Abdulrahman Dia.
Le président Trump a autorisé des sanctions économiques contre des responsables de la Cour pénale internationale qui prendraient part directement à tout effort pour enquêter sur les militaires américains ou pour les inculper sans le consentement des États-Unis, a annoncé la Maison-Blanche dans un communiqué. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos gars sont menacés par un tribunal bidon, a ensuite martelé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. En mars, la CPI a décidé en appel d'autoriser une enquête en Afghanistan malgré l'opposition de l'administration Trump. Cette enquête de la procureure Fatou Bensouda vise entre autres des exactions présumées commises par des soldats américains et des allégations de torture à l'encontre de la CIA. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué la décision américaine. Cette cour est politisée, son obsession est de mener une chasse aux sorcières contre Israël et les États-Unis et fermer les yeux sur les pires fossoyeurs des droits humains dont le régime terroriste en Iran, a déclaré hier Benjamin Netanyahou dans une conférence de presse. Par contre, l'Espagnol Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s'est dit très préoccupé par la décision de Washington. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent en vidéoconférence lundi prochain sur la question.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Ouganda ordonne une enquête de faisabilité sur la construction d'un barrage hydroélectrique à proximité des chutes Murchison, 3 mois après l'annonce de l'abandon de ce projet. Cette volte-face a provoqué la colère des défenseurs de l'environnement et de nombreux acteurs du secteur du tourisme opposés à ce projet hydroélectrique d'une capacité de 300 MW sur le Nil Victoria. Pour le gouvernement ougandais, l'étude devra déterminer si c'est le tourisme ou l'électricité qui bénéficie le plus au pays. Plus du tiers des réserves de poissons du Sénégal jusqu'au Nigeria est frappé par la surpêche et la moitié des prises au large des côtes ouest africaines pourraient être illégales, dit l'ONU. Ces réserves sont affectées par l'activité des chalutiers qui prélèvent plus de sardines, de thon et de maquereaux que la nature n'en produit pour satisfaire l'appétit des consommateurs asiatiques et européens. Les pêcheurs sénégalais doivent s'éloigner chaque année davantage de la côte pour des prises de plus en plus maigres. La pêche fait vivre environ 500 000 Sénégalais. Pour terminer, avec des réseaux anéantis et un très long retour des passagers, les compagnies aériennes devront être pragmatiques et se redimensionner pour faire face à un niveau d'activité qui sera plus bas, expliquent les analystes aéronautiques. Les compagnies devront réduire leur taille, leurs coûts et leur capacité à avoir une offre importante. Cela entraînera le retrait du service des centaines d'avions et des milliers de licenciements.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Un groupe de 40 à 50 joueurs ont exprimé des doutes quant à reprendre la saison NBA fin juillet à Orlando, selon la télévision ESPN. Pour l'heure, aucun de ces joueurs n'a formellement exprimé sa volonté de ne pas participer au rendez-vous fixé cet été chez Disney World. Mais cette perspective semble devoir être anticipée par la Ligue dans le cadre d'un accord établi avec le syndicat des joueurs. Celui-ci établit que les joueurs dont les conditions de santé les exposent à un risque accru de contracter le coronavirus pourront déclarer forfait et ceux qui évoqueraient d'autres raisons en auront aussi le droit sans encourir de sanctions, mais ne percevront pas les salaires correspondants à leur participation au match. Parmi les préoccupations exprimées par ce groupe de joueurs hésitants reviennent surtout la perspective d'être séparé de sa famille pendant des semaines, l'isolement sur le site de Disney World, les risques persistants liés à la pandémie et de se blesser après un temps de préparation trop court. La saison reprend le 31 juillet avec 22 équipes toutes rassemblées en Floride pour jouer des matchs à huis clos jusqu'au 12 octobre au plus tard. En football, la FIFA a modifié ses règlements sur les fenêtres de transfert pour prendre en compte la longue interruption des compétitions liées au coronavirus. L'instance mondiale autorise sous condition la fenêtre estivale à chevaucher exceptionnellement les fins de championnat 2019-2020, reprogrammées pendant l'été. Selon la FIFA, je cite, « la priorité devait être donnée aux anciens clubs pour finir la saison avec leur effectif originel via des prolongations de contrats. Si nécessaire, elle a retenu une exception de chevauchement entre la période d'enregistrement estivale et la phase finale de la saison 2019-2020 sur un maximum de 4 semaines. En temps normal, la fenêtre estivale de transfert ne débutait qu'une fois achevée la saison précédente. Il appartient à chaque fédération nationale de fixer les dates de ces 2 mercato, été-hiver, pendant lesquels des mouvements de joueurs d'un pays à l'autre sont autorisés. En Espagne, la Liga pourrait reconsidérer la possibilité d'un confinement obligatoire des joueurs dans les centres d'entraînement des clubs en cas de non-respect des consignes sanitaires établies avant la reprise du championnat. Si les joueurs continuent sur cette voie, nous nous verrons dans l'obligation de faire quelque chose que nous avions dit que nous n'allions pas faire, c'est-à-dire le confinement obligatoire, a déclaré Javier Tebas, président de la Liga. D'après la chaîne TV espagnole Cuatro, le latéral portugais de Barcelone Nelson Semedo a participé à un barbecue avec une vingtaine d'autres personnes en Catalogne sans porter de masque ni respecter les distances de sécurité, enfreignant ainsi les règles du déconfinement fixées par le gouvernement espagnol.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'attaque de jeudi matin d'un poste militaire à Kafolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, a fait une dizaine de victimes selon l'état-major ivoirien. Est-ce un nouveau front pour les mouvements djihadistes au Sahel ? Bagassi Koura a joint Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute African Center for Peace Studies à Dakar.
Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire a subi des attaques. On se rappelle de Grand Bassam, qui, à mon avis, était un des signaux de la régionalisation de la menace, à partir des attaques qui sont abattues sur le Burkina d'abord, et puis avant de s'étendre. Et je crois que là, c'est un signal assez fort à ces pays côtiers qui doivent de plus en plus prendre au sérieux la menace djihadiste. Sachant que récemment, on a eu quelques problèmes avec le Togo, et que d'autres pays aussi seraient sur la ligne de ces groupes, qui naturellement ont toujours considéré le Burkina Faso non pas comme une étape finale, mais une étape intermédiaire pour étendre leur tentacule sur tout ça.
Quelle doit être la réponse des États qui se sont particulièrement concentrés sur les trois pays, Burkina, Mali, Niger? Est-ce qu'il faudra revoir toute la stratégie?
Il y a des approches qui doivent être différenciées. Ça fait longtemps que je disais que ces pays-là, les pays côtiers, étaient dans une situation où ils pouvaient développer encore des stratégies de prévention basées sur des mesures qui devaient prendre, mais aussi favoriser la prévention de l'extrémisme violent lui-même, pour que ces groupes-là ne puissent pas prendre racine et qu'il n'y ait pas des terreaux favorables à cette idéologie-là. Et donc, je crois qu'il faut désormais prendre à bras le corps cette menace-là, non pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan d'une prévention de l'extrémisme violent qui devient une véritable problématique à prendre en charge dans ces pays-là.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont vulnérables?
On se rappelle de cette prise d'otage jusqu'au Bénin à partir du Burkina Faso. On se rappelle aussi récemment les opérations ratées au nord du Togo, mais aussi tous les pays, à mon avis, qui sont frontaliers aussi bien du Mali et du Burkina Faso devraient prendre leur garde, et que sachant que cette menace-là n'est pas circonscrite quelque part, elle a une dimension forcément transnationale, et donc la régionalisation de la menace est une réalité à prendre en compte aujourd'hui.
Bakary Samb du Timbuktu Institute, joint à Dakar au Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Burkina Faso, la présidentielle et les législatives se tiennent dans 5 mois, précisément le 22 novembre. Mais déjà, des partis d'opposition, comme ceux du pouvoir, ne s'entendent pas. Si certains sont pour la tenue des élections, d'autres, en revanche, ne sont pas d'accord, annonçant que le pays fait face à une crise sécuritaire et que certaines zones restent inaccessibles. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À quelques 5 mois des élections couplées au Burkina, présidentielles et législatives, la classe politique est plus que jamais divisée. Des partis d'opposition appellent à un report des élections. Mamadou Kabré est le président du PRIT Lanaya.
La question nationale est fondée sur les problèmes qui assaillent actuellement le Burkina Faso, sur le risque de perdre la démocratie et sur le fait que, au niveau du pouvoir, on n'aboutit pas à un développement avec des élections qui sont parfois non inclusives. Et c'est pour ça que nous demandons le report des élections. Le report des élections ne signifie pas une vacance de pouvoir, parce qu'il y aura une régence, il y aura un pouvoir intermédiaire qui va être là. La transition ne signifie pas un chaos. La transition ne signifie pas non plus une prise d'intérêt pour un groupe. Il s'agit de voir le Burkina Faso dans son unicité, dans son ensemble, pour régler le problème.
À l'opposition non affiliée, un regroupement de partis qui ne se reconnaît pas du chef de file de l'opposition, la question des élections est en discussion.
Je suis candidat, je veux que les élections se tiennent, mais je veux qu'elles se tiennent conformément à la Constitution.
Professeur Abdoulaye Soma, président du mouvement politique Soleil d'Avenir, constitutionnaliste, par ailleurs candidat à la présidentielle de novembre prochain.
Je souhaite que l'élection présidentielle soit conforme à la Constitution, parce que si elle est contraire à la Constitution, et le pays sera exposé à une instabilité politique qui viendra s'ajouter à une insécurité que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous serons dans une situation pire que maintenant. Je ne souhaite pas que mon pays et ses partenaires se trouvent dans cette situation très grave sur le plan constitutionnel et sur le plan sécuritaire. Donc voici ce que j'assume en toute responsabilité.
Mais pour le parti au pouvoir, il faut aller aux élections au risque de créer un vide juridique. Simon Compaoré est le président du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès.
Certains même qui disent qu'il faut d'abord faire ce qu'on appelle la réconciliation. Ils font partie de ceux-là qui souhaitent qu'on se trompe de porte là, et que on n'organise pas les élections et que ça soit une occasion de nous trouver devant ce qu'on appelle le vide juridique et de faire ce qu'on appelle une transition. Quand on parle de transition, même ceux qui ne peuvent rien apporter, bon, s'invitent à la table. Nous allons organiser comme il se doit, comme la Constitution l'exige, une consultation en bonne et due forme.
Le gouvernement, lui, est un observateur. Aucune réaction de sa part. Jusque-là, et officiellement, l'échéance reste maintenue. Les Burkinabés voteront leur président et leur député le 22 novembre prochain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, la pandémie de coronavirus et la fermeture des écoles a entraîné l'augmentation du nombre d'enfants qui travaillent. En effet, depuis le début du confinement, davantage d'enfants travaillent comme colporteurs, nettoyeurs ou passent le temps à mendier dans les rues en ville pour aider leurs familles. Reportage de Timothy Obiezu à Abuja, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
Âgé de 15 ans, Aboubakar Mohamed a repris le travail dans un atelier d'Abuja où il apprend la menuiserie et la fabrication de meubles depuis l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, avec la fermeture de son école en raison du coronavirus, il travaille à plein temps pour subvenir aux besoins de sa famille en espérant retourner bientôt à l'école.
L'école me manque. Je reste juste ici le temps que le coronavirus disparaisse. Je reste ici pour gagner de l'argent, mais quand l'école reprendra, je vais retourner en classe.
Aboubakar vit dans un foyer polygame et il a 5 petits frères et sœurs. Sa mère est contente de son soutien et dit l'avoir poussé vers l'apprentissage d'un métier.
Je lui ai dit d'apprendre un travail manuel parce qu'il n'y a pas d'argent à la maison. Et lorsque son père ne sera plus, il pourra s'occuper des plus jeunes.
Au Nigeria, le travail des enfants est interdit depuis 2003, mais la pratique est encore répandue parmi les pauvres du pays. Valentine Ndzi est propriétaire de l'atelier où Mohamed et 6 autres garçons tentent de joindre les deux bouts.
Si leurs parents veulent les amener pour travailler sous notre responsabilité, nous ne collectons pas d'argent. Nous regardons leurs compétences. Nous ne prenons pas d'argent parce que peut-être qu'à la fin, les garçons ne vont pas rester. S'ils sont sérieux, c'est en ce moment-là que nous négocions. C'est ce que nous voulons.
L'Organisation internationale du travail estime que 15 millions d'enfants nigérians font partie de la population active, le chiffre le plus élevé d'Afrique de l'Ouest. L'OIT affirme que le relâchement des mesures de confinement par le Nigeria, tout en fermant les écoles, a déclenché une augmentation rapide du taux de travail des enfants. Agatha Kalawole est responsable du programme national de l'OIT pour accélérer l'élimination du travail des enfants.
Maintenant que le confinement a été réduit, au moins nous pouvons nous déplacer. Ces enfants travaillent pour joindre les deux bouts, pour prendre soin de leur famille et pouvoir leur fournir de la nourriture. Actuellement, nous avons certainement plus d'enfants travaillant comme ouvriers.
Les défenseurs du droit des enfants affirment que la pauvreté, les traditions sont les principaux obstacles à l'élimination du travail des enfants au Nigeria. Les autorités nigérianes ont introduit des modules d'éducation en ligne pour garder les enfants occupés pendant cette période. Cependant, beaucoup, comme Mohamed, n'ont pas accès à l'enseignement en ligne. Ils vont donc continuer à servir de main-d'œuvre en attendant la réouverture des écoles.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Cameroun, les cas d'abus sexuels sur les enfants sont en augmentation selon les associations et les avocats qui mènent la lutte contre ce fléau. De récents rapports révèlent que même des enfants de 6 mois ont été victimes d'abus sexuels dans le pays. Mais des avocats spécialisés dans les droits des enfants et les pouvoirs publics regrette que de nombreuses complexités empêchent encore que justice soit rendue pour les enfants victimes. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Depuis le dernier trimestre 2016, un programme spécifique de prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles a été mis en place par l'UNICEF en partenariat avec l'Association des violences faites aux femmes. Un centre d'écoute de ces enfants est fonctionnel au quartier Tinga à Yaoundé. D'après ses responsables, ce phénomène concerne les enfants des deux sexes.
Près de 90% de ces situations de violence ont été commises dans le cercle familial ou amical.
Angomanga Ada, directrice centre-vie et femmes au sein de l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes.
Nous avons pu mettre en place des processus de prise en charge à travers nos 3 assistantes sociales qui font de la prise en charge spécialisée en respectant la confidentialité, la gratuité de nos services. Nous avons une juriste au niveau de l'association, mais aussi une avocate bénévole qui va faire en sorte que cet enfant ou cette famille puisse avoir vraiment de l'appui juridique en bonne et due forme.
Mais la majorité des cas portés devant la police ou la gendarmerie n'aboutissent pas à un procès. Pourtant, les peines requises pour les infractions d'abus, de viol des enfants ou de rapports sexuels consentants avec un ou une mineure peuvent atteindre jusqu'à 25 ans d'emprisonnement ferme.
Mais le problème, c'est plutôt des désistements spectaculaires et on soupçonne des intimidations. Vous avez une famille qui vient vous déclarer que l'enfant est abusé. Le lendemain, vous dites non, le problème n'existe plus.
Jean-Pierre Edouard, directeur de la protection sociale de l'enfance, au ministère des Affaires sociales.
Nous, on peut continuer, même si la famille désiste, parce que nous avons la protection de ces enfants. Il y a ces situations-là, mais nous essayons de leur dire, écoutez, vous n'avez peut-être pas la force, mais l'État a cette force-là. On peut continuer à faire prévaloir et faire valoir les droits de ces enfants. Mais si les enfants ne sont pas stabilisés, ne sont pas récupérés, ne sont pas remis sur la sellette sociale, on aura peut-être eu un effet sur les bourreaux, mais les enfants eux-mêmes, on aura perdu pratiquement des générations entières.
Dans sa carrière d'avocat, Diane Tiamolonier s'est spécialisée sur la défense des droits des femmes, des personnes handicapées et des enfants victimes d'atteintes sexuelles. À ce titre, elle connaît de nombreux cas qui sont encore au stade de l'information judiciaire. L'avocate déplore cependant que les administrations et la chaîne judiciaire gèrent encore mal le cas d'abus commis sur les enfants lors de l'information judiciaire.
Il est important qu'on essaie de former aussi bien au niveau de la police qu'au niveau de la justice pour voir comment est-ce qu'on encadre ce genre d'enfant, comment est-ce qu'on approche ce genre d'enfant et quelles sont les questions pour pouvoir arriver au but qu'on s'est fixé et comment est-ce qu'on formule ces questions pour ne pas traumatiser l'enfant qui est déjà dans un certain état de traumatisme.
Le Cameroun a créé en 2016 une plateforme nationale de protection de l'enfance et mise sur pied depuis 2 ans en partenariat avec l'UNICEF des procédures pour mieux coordonner la prévention, le signalement, la prise en charge et la réinsertion des enfants victimes des violences. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est